Tous les lundis soirs à 18h10, vous avez rendez-vous avec l'actu sportive, le journal des sports de BPM. Au programme, résultats, invités, interviews téléphoniques et réactions en direct. Une seule fréquence, 102.1. BPM, la radio qui vous donne le rythme du sport partout dans le Mantois. Le journal des sports de BPM.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des sports. Aujourd'hui, nous recevons l'entente sportive Boiffle-Flin avec son président Xavier Israël et le responsable de la section féminine Morgane Artaud. Nous parlerons avec eux de la philosophie du club et puis nous reviendrons sur les résultats de la semaine dernière dans les différents événements sportifs.
BPM, le journal des sports.
Aujourd'hui, je reçois l'entente sportive Boiffle-Flin en compagnie de son président Xavier Israël et de Morgane Artaud, responsable de la section féminine du club. Bonjour messieurs.
Bonjour.
On va commencer par une présentation du club. Quand a-t-il été créé et comment est née l'initiative ?
Alors, la date de création du club, je peux même pas vous la donner exactement, tellement ça remonte. Je suis Xavier Israël, je suis président du club depuis le mois de mai 2020, pour être très précis, donc ça fait pas très longtemps. Le club de l'ESBF, l'entente sportive Boiffle-Flin, comme son nom l'indique, c'est une entente entre les deux villes. Et on a à peu près aujourd'hui, sur l'année 2020-2021, on va tourner aux alentours des 280 licenciés. Donc voilà, un club qui commence à avoir un certain volume.
Alors, l'entente sportive Boiffle-Flin, donc c'est du football et il y a 3 sections.
C'est ça. On a organisé le club sous cette forme-là à mon arrivée. Alors, très simplement, les équipes existaient déjà, mais on avait besoin d'organiser un petit peu les structures avec 3 sections qui sont la première section, évidemment, d'école de foot, dans laquelle on a rajouté les vétérans, puisque, alors pour faire simple, au niveau de Boiffle, il n'y a pas d'équipe senior en dehors de la section féminine. Notre terrain, nous, de prédilection, c'est le football chez les jeunes et le football féminin. Donc on a une première section qui est l'école de foot à laquelle s'ajoutent les vétérans. On a une deuxième section qui est une section de football élite avec Boiffle Academy, la section Boiffle Academy, où là on intervient uniquement sur détection et sur des rencontres élites. Et puis la troisième section, c'est la section féminine qu'on a structurée de cette manière-là avec notamment une équipe senior à 11 qui vient de démarrer en championnat à 11, mais qui est la continuité de ce qui existait avec des équipes en critérium à 7, qui caracolait en tête et qui avait besoin d'un peu plus. Et on a structuré cette section de manière à ce qu'elle soit parfaitement adaptée à tout le football féminin à partir de 11 ans, à partir des U12.
Juste un mot sur les renseignements pratiques. Voilà, où est-ce que vous vous entraînez et les horaires et jours d'entraînement dans la semaine ?
Donc aujourd'hui, on est nous physiquement rattachés au terrain du Stade Montcharmont situé à Boiffle. Donc voilà, c'est rue de Presles. On est le long de la Nationale 13. Les installations sont exploitées au maximum de ce qu'elles peuvent faire. On est d'ailleurs en discussion pour voir certains agrandissements. Ce ne sera pas immédiat, mais voilà, les dossiers sont ouverts. Donc le terrain aujourd'hui, c'est celui de Boiffle. On a d'autres alternatives également qui sont en discussion et qui très certainement seront mises en place dans le courant de l'année avec un deuxième terrain d'entraînement.
Juste pour savoir pourquoi la réunion entre les communes de Boiffle et Flin ?
Alors cette réunion, elle est assez simple, c'est que elles sont très proches déjà. Il y a à vol d'oiseau moins de 500 mètres entre les deux communes. Et puis, en termes de mise à disposition de moyens, ça permettait justement d'avoir d'une part le terrain synthétique sur la commune de Boiffle, d'autre part de bénéficier aussi de la salle de sport pour tout ce qui est foot en salle que l'on peut avoir sur certaines séances ou certains tournois à Flin. Et ça permettait évidemment de pouvoir bien exploiter complètement les capacités des deux communes.
Alors, venons-en à la compétition. Donc, on parle de compétition loisir, c'est ça, pour la section en temps sportif Boiffle.
C'est ça, pour l'école de foot, on est sur une section loisir. La section loisir ne veut pas dire forcément qu'on n'a pas envie de plus, mais on est dans cette recherche de progression. Et puis, vous avez après, pour ce qui concerne l'académie et pour ce qui concerne la section féminine, une recherche de performance. Spécifiquement pour l'académie, on va parler de foot élite, Après, effectivement, voilà, on va réussir aussi bien sur les garçons que sur les filles, au travers des trois sections, à avoir une réponse en foot loisir ou en foot élite.
Alors Morgan Artaud, vous êtes responsable de la section féminine. C'est une section déjà toute récente.
Effectivement, elle a débuté donc il y a 4 ans, grâce aussi voilà à ce projet. Il y a eu une suppression des seniors garçons pour intégrer ces féminines. On a commencé avec 3 années en critérium A7, où la première année a été plus que correcte, avec une 6e place au classement en critérium. Et les 2 années suivantes, on a, comme l'a dit le président, caracolé en tête du championnat avec des victoires en permanence, avec des scores assez élevés. Donc c'est pour ça que cette année, on a décidé d'évoluer à 11 pour pouvoir prétendre avoir un peu plus de compétition. Et les filles qui étaient actuellement dans l'effectif avaient un niveau pour pouvoir prétendre à jouer à 11, sachant que dans ce groupe-là, on a des joueuses qui, dans les années, même dans les mois à venir, vont certainement nous quitter pour aller sur des structures beaucoup plus grandes que les nôtres.
Quels sont les objectifs? Est-ce que vous avez des objectifs précis pour la section féminine cette saison?
Oui, effectivement. Donc le premier objectif, c'est que tout le monde prenne du plaisir à jouer. L'équipe A7 est faite exclusivement de débutantes et certaines joueuses qui n'ont pas tout de suite le potentiel pour évoluer en équipe première, mais qui sont là pour parfaire leur connaissance du football. Et ensuite, l'équipe première, on a un objectif de monter en régional cette année, sur la première année de création 11. Donc c'est notre objectif prioritaire.
Du coup, la saison, elle a commencé là?
Oui, effectivement, elle a commencé. Donc on a commencé avec un match de Coupe de France qui s'est plutôt mal déroulé pour nous, car on a affronté une grosse équipe de Saint-Denis qui était déjà en place depuis plusieurs années au niveau régional. Donc une défaite 9-0, voilà, on n'a pas à rougir de ça. Pour nous, c'était notre premier match à 11, donc pour certaines aussi. Ensuite, on a commencé notre premier match de championnat qui s'est plutôt bien déroulé pour nous avec une victoire 9-0 au Clé-sous-Bois. Match maîtrisé dans l'ensemble. Et puis notre équipe réserve a déjà joué 2 matchs avec une défaite 5-3 contre l'équipe de Rony et ce week-end une victoire 14-0 face à une équipe de Andrézy qui était comme nous il y a 3 ans, débutante.
Et là, votre équipe première, elle est dans un championnat avec combien d'équipes?
Actuellement, on est sur une poule de 12 équipes, mais faut être réaliste, le football féminin, c'est compliqué ces derniers temps. On a quand même pas mal de forfaits ou d'équipes qui n'arrivent pas à avoir le nombre de licenciés nécessaires.
Et ça, c'est spécifique au football féminin ou c'est juste le...
Sans dire que ce soit spécifique au football féminin, c'est quand même une des particularités. On le rencontre sur le football masculin, mais le football féminin, c'est assez étonnant d'une année sur l'autre, comme certains clubs ont des difficultés à se renouveler en termes d'effectifs.
Donc une poule de 12, il faut être classé combien pour accéder à la division supérieure?
Alors aujourd'hui, je peux pas vous le dire officiellement, car le district va nous donner ça sous peu de temps. Ça va dépendre aussi des forfaits. Ça va dépendre des forfaits en division supérieure. Ça va dépendre du Covid ou pas, parce qu'on ne sait pas si on va terminer le championnat dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments, mais je pense qu'il faudrait finir dans les 2 premiers, parce qu'au-dessus, il y a 2 poules de Régional 3, donc ça ferait une descente par poule, donc une montée par poule, je pense.
Vous me le disiez en off, vous prenez un vrai plaisir à entraîner cette académie féminine.
Tout à fait.
Dans l'investissement des joueuses.
Tout à fait, car aujourd'hui, j'ai des joueuses qui ont... Aujourd'hui, j'ai 3 joueuses qui ont des prédispositions pour intégrer des structures plus grosses que les nôtres, notamment 1 à 2 joueuses qui peuvent prétendre à des clubs professionnels qui sont supervisés depuis déjà 2 ans. À côté de cela, les filles sont persévérantes, qui pleuvent, qui neigent, qui ventent, elles sont toujours présentes aux séances. Elles travaillent très dur et c'est vraiment intéressant de travailler avec des gens à l'écoute, ce que forcément je ne trouvais plus chez les garçons sur les dernières années, vu les générations qui changent par rapport aux années et par rapport à ce qu'on peut voir aussi à la télé, etc., etc.
On va parler tout à l'heure de l'académie masculine et du rôle de formation que joue le club. Mais pour l'instant, c'est le moment de donner les résultats sportifs de la semaine dernière.
Le journal des sports, les résultats.
On commence par du football. En National 3, le FC Mantois obtient le match nul au Muro, un but partout. Mantes est 9e au classement général. En National U17, le FC Mantois s'incline à domicile 3 buts à 1 contre Caen. Les jeunes Mantais restent 9e au classement. Et puis dans le championnat LPIFF en R1, le Bougainville Sport de Mantes-la-Jolie s'incline à Sainte-Geneviève 3 buts à 1. Bougainville se retrouve 6e au général. On passe au handball. En pré-national féminine, les filles du Saint-Marcel-Vernon s'imposent contre l'ES Falaise-Putange 27 points à 23. L'ESMV est 3e au classement provisoire. Un mot de rugby, en championnat territorial 2e série, les hommes de l'Est Mantaise concèdent la défaite à Vélizy-Villacoublé, 30 points à 19. Mantes se retrouve 3e ex-aequo au classement provisoire. Un mot du comité régional olympique et sportif d'Île-de-France, concernant le couvre-feu, aucune dérogation n'est envisagée, qu'il s'agisse de l'entraînement dans les clubs en soirée ou des compétitions strictement amateurs qui s'achèveraient après 21h, chacun devra être rentré chez lui à l'heure dite. Seule solution, avancer les horaires des séances quand cela est possible. Les seules exceptions dans ces zones s'appliquent aux athlètes professionnels. Ils pourront continuer à se préparer et ou participer à des compétitions en nocturne mais à huis clos. Pour le reste, les gymnases et les piscines demeurent fermés en Île-de-France. Ils ne pourront accueillir que les mineurs qui pratiquent au sein d'associations, et ce jusqu'à 21h. Une petite page de pub et on se retrouve pour la seconde partie du Journal des Sports.
BPM, le Journal des Sports.
On entame la seconde partie de votre Journal des Sports, toujours avec Xavier Israël, président de l'entente sportive Boisfeu-Flin, accompagné du responsable de la section féminine Morgane Artaud. On a parlé justement de l'ESBF Académie Féminine. Venons-en maintenant à la section Académie tout court. Et là, ça concerne les garçons, c'est bien ça?
C'est ça. Alors, comme elle avait déjà été créée depuis un moment et que le nom Boif l'Académie a beaucoup circulé au niveau national, c'est assez paradoxal. On se rencontre, on ne se connaît pas forcément, mais c'est assez paradoxal. C'est un nom qui est très connu dans les clubs de préformation au niveau national. On a conservé le nom Boif l'Académie pour l'Académie masculine finalement. Et la section féminine, c'est Académie féminine.
D'accord.
Voilà. Et c'est vrai que, alors, on a des objectifs au niveau de l'académie, mais qui sont des objectifs très, l'académie masculine, pardon, qui sont très différents. Ou en tout cas, qui sont un peu plus orientés. Pour faire simple, aujourd'hui, on a une philosophie au niveau du club qui est une philosophie de jeu, déjà pour démarrer. C'est-à-dire que, quelles que soient les équipes que l'on rencontre et quelles que soient les catégories, on a un style de jeu qui ne cherche pas l'efficacité. C'est paradoxal à dire comme ça, mais on n'a pas ce souhait-là, en tout cas pas dans l'immédiat. On a un objectif de progression, on a un objectif d'apprentissage qui est relativement important, qui démarre très tôt, et pour lequel, si vous venez sur le bord du terrain et que vous regardez jouer nos petits qui ont 7 ans ou nos petits qui ont 13 ans, vous avez le même style de jeu qui est enseigné, le même vocabulaire, les mêmes techniques d'enseignement, et vous avez un jeu véritablement de foot que moi j'ai découvert très tardivement, que j'ai découvert en arrivant à Boifle. C'est un jeu pour lequel on essaie de construire voilà, on entend toujours parler du modèle à la barcelonaise. Si vous venez à Boifle Academy, si vous venez à l'ESBF voir la section Boifle Academy, vous verrez des enfants qui démarrent à l'âge de 7 ans avec des jeux en triangle, du jeu en profondeur, un vocabulaire où on va leur dire mets-toi de trois quarts, joue le joueur libre, va fixer, des choses que l'on ne trouve pas ou très peu dans ces catégories-là. Donc nous, notre premier objectif, avant même les résultats, c'est l'apprentissage et la progression. Comme le disait Morgane, et à juste titre, pour ce qui concerne les jeunes joueuses que l'on veut faire évoluer dans d'autres clubs, on considère que nous ne sommes qu'un point de passage et tous les clubs ne sont qu'un point de passage. C'est-à-dire qu'il faut avoir la cohérence de son niveau et de ce que l'on peut proposer à nos joueurs et à nos joueuses. Et notre niveau, c'est un point de passage d'apprentissage qui n'est pas forcément du foot débutant, même si évidemment on l'a aussi au niveau de notre section école de foot. Mais pour ce qui concerne l'école, non pas l'école de foot, mais l'académie, Boif l'Académie, on va être un point de passage pour quelque chose de plus, quelque chose de supérieur. On espère amener le plus de joueurs possible en centre de formation. Depuis la création de l'Académie il y a 5 ans, 7 joueurs ont signé en centre de formation, principalement sur les clubs de Caen et les clubs du Havre, le club du Havre. On a des essais en permanence, on a pas mal de choses. Évidemment, ça ne compte pas le nombre de joueurs qui sont partis de chez nous avant de signer en centre de formation, mais qui évoluent dans des clubs parce qu'ils sont plus petits, ils sont partis plus tôt, mais qui évoluent dans des clubs. Voilà, on va pour ne citer qu'eux, parce qu'on se voit souvent et c'est plus que cordial. On a la même passion. On voit beaucoup le Paris Saint-Germain autour de chez nous. On a une proximité forte. Et pour vous donner un exemple sur la génération 2008, c'est-à-dire les U13, vous devez avoir aujourd'hui 4 à 5 joueurs qui viennent de Boifle, qui sont passés par les écoles de Boifle et qui sont dans l'équipe première des U13 du Paris Saint-Germain. Certains qui signeront, d'autres qui signeront pas. Notre objectif, c'est de les faire évoluer lorsqu'ils sont chez nous. Hein. Quand ils sont plus chez nous, on peut plus faire grand-chose, et encore qu'on en fasse un suivi. Mais c'est de les faire évoluer en termes d'apprentissage. Après, l'Académie a une équipe engagée en championnat, qui est la génération 2007 avec les U14, et pour lesquelles, évidemment, on a le souhait de continuer d'évoluer. C'est pareil, une équipe qui a démarré son championnat il y a 4 ans maintenant, 5 ans, qui a fini championne de son championnat à chaque fois. Bah, évidemment, on démarre dans les petites divisions hein, dans ces cas-là, donc aujourd'hui elle est en 2e division district. Il n'y a que l'année dernière où elle n'est pas montée, puisque le championnat s'est arrêté un peu prématurément et elle était à un point du leader. On espère reprendre cette marche en avant.
Oui, donc du coup, la physionomie du club, c'est l'enseignement des techniques de football à vos joueurs, plus que la compétition, même si la compétition est importante, mais votre priorité, c'est vraiment de former les joueurs.
C'est ça. Après, au niveau des écoles de foot, les équipes sont engagées sur des plateaux ou des championnats. Lorsqu'on est en section féminine, on a évidemment le critérium à 7 et on a le championnat à 11. Pour ce qui concerne l'académie, seule la génération 2007, donc seule les U14 évoluent en championnat. Toutes les catégories précédentes n'évoluent pas en championnat, elles sont hors championnat et on est en déplacement permanent pour rencontrer des équipes justement de l'élite, soit en région parisienne, qui est quand même le premier foyer de jeunes footballeurs au monde, soit beaucoup plus loin. On est tous relativement souples au niveau des dirigeants, au niveau des éducateurs et bien évidemment au niveau des parents. C'est un vrai sacrifice parce qu'on se déplace très souvent sur des villes comme Caen, Metz, Lyon, sans aucun problème. Et donc, on évolue hors championnat. Ça signifie qu'on n'a pas d'objectif de résultat véritablement. Le résultat n'est qu'une conséquence de notre jeu et de ce que l'on veut mettre en place. Après, on participe à des très beaux tournois sur lesquels on essaie évidemment d'avoir les performances les plus représentatives. Mais l'objectif double, encore une fois, c'est un, l'apprentissage, et deux, bien évidemment, et ça va avec l'apprentissage, le plaisir des joueurs et des joueuses.
Parlons de vos actualités, des événements ou des manifestations, soit que vous organisez, soit auxquelles vous êtes liés tout au long de l'année.
Oui, il était nécessaire au niveau du club de l'ESBF, donc de l'entente sportive Bois-Flin, autant que je dirais dans la région, mais dans l'environnement, il était nécessaire de dynamiser un petit peu les événements. En tout cas, moi, c'était ma vision de la chose. Et donc, plusieurs dossiers, plusieurs chantiers ont été enclenchés sur le côté événement. Le premier chantier qui, malheureusement, est tombé à l'eau la veille de son événement, c'était un match très intéressant de football féminin Orléans-Valenciennes, qui devait se dérouler sur notre terrain. Malheureusement, pour des questions de nombreuses blessures, l'entraîneur de Valenciennes nous a informé la veille que c'était très compliqué pour lui de constituer une équipe performante pour ce match-là. Et donc, on a dû annuler l'événement. Ils ont dû annuler l'événement. On en a d'autres qui sont en discussion parce que c'est une vraie volonté pour nous d'organiser des belles rencontres, notamment en foot féminin, de l'élite féminine sur notre terrain. Ce sont des événements qui méritent d'être mis en avant. Et puis, après, on a d'autres événements sur lesquels nous travaillons, indépendamment des participations sur les grands événements sportifs que l'on peut avoir. On a tout récemment validé 2 inscriptions sur 2 de nos équipes académies pour les tournois internationaux, comme ça nous arrive chaque année. Donc, vraiment des très, très beaux tournois avec des équipes comme l'Ajax, comme Arsenal, comme Barcelone, etc., que l'on peut rencontrer comme presque chaque année. Mais on a cette volonté également de fédérer quelques-uns des clubs qui sont autour de nous pour partager les infrastructures, pour partager ces événements également et organiser des événements représentatifs. Nous planchons actuellement sur, pour le moment, deux tournois représentatifs qui pourraient se dérouler sur 2 jours et qui seraient multisites pour, là aussi, sur des petites catégories, très certainement une catégorie U11 ou U12 et très certainement une catégorie U9 ou U10. faire un très bel événement sur un week-end pour attirer les, évidemment les beaux clubs d'Île-de-France que l'on connaît bien, attirer également les clubs professionnels sur leur côté amateur pour les jeunes équipes, mais faire venir des équipes qui viennent de beaucoup plus loin comme nous déplaçons.
Et est-ce qu'il y a d'autres projets pour l'avenir au niveau des événements organisés?
Alors, au niveau des événements, si sur l'année on arrive à mettre tout ça en place, je pense qu'on aura rempli très fortement notre agenda de l'année parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'organisation et quand on fait un événement, il faut qu'il soit réussi. Donc d'un point de vue événement, on a principalement ça. Après, on a d'autres projets qui sont plus structurels au niveau du club.
Alors, on l'a évoqué au début de cette émission, le Covid, quel a été son impact sur le club concrètement?
On a eu déjà un impact fort, évidemment, sur la mobilisation des non pas des joueurs, mais la mobilisation des parents, principalement, puisque vous l'aurez compris, on est beaucoup avec des équipes de jeunes. Donc, la mobilisation des parents, la fédération, je dirais, des éducateurs qui ne savaient pas trop un peu comment allaient évoluer les choses. Mais je dirais que ça a été un point de passage où la communication était compliquée avec la distance, malgré tous les outils que l'on peut avoir. Et il était nécessaire qu'on arrive à, je dirais, remobiliser tous les joueurs du club en vue de cette nouvelle saison fin juin. Heureusement que la fédération nous a permis de reprendre la pratique pendant quelques semaines. Parce que je pense que le début de saison aurait été très compliqué. S'il l'avait été pour nous, je n'imagine même pas sur certains clubs structurés différemment comme ça aurait été catastrophique. Donc voilà, on a eu beaucoup d'inquiétudes. On a eu beaucoup d'inquiétudes aussi au niveau de l'académie masculine parce qu'évidemment, on évolue avec énormément de joueurs en détection. Et lorsqu'on ne peut pas organiser les détections, bah c'est un tout petit peu difficile de former ses équipes et de préparer pour la saison prochaine. Donc heureusement, cette fenêtre de tir nous a permis de sauver notre saison actuelle. Sur fin juin, on a eu 15 jours où on a énormément travaillé, énormément communiqué pour pouvoir mettre en place cette saison qui, au final, se présente plutôt sous de très jolis cieux.
Plus globalement, quelles sont les difficultés que le club peut rencontrer tout au long de l'année ?
Les difficultés du club vont être vraiment sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est une difficulté que l'on va appeler administrative. On a eu jusqu'à présent des échanges avec les précédentes mairies en fonction qui n'étaient pas forcément toujours évidents. En tout cas, des échanges non pas qui mettaient en difficulté le club, c'est pas ça du tout, mais qui pouvaient bloquer certains projets pour différentes raisons, hein, financières par exemple, et c'est, je dirais, une raison qu'on comprend tout à fait. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a des infrastructures qui sont utilisées à leur maximum, qu'on a des velléités de développement, c'était nécessaire d'avoir une oreille un peu plus à l'écoute sur nos besoins, dans la mesure du possible. Et c'est vrai qu'avec les deux communes, aussi bien Boifle que Flin, on a désormais une communication et un échange qui est plus que positif. On est, je dirais pour le coup, dans un vrai sport collectif. On a une vraie entente et donc on cherche ensemble des solutions pour développer les infrastructures. Donc il y a plusieurs projets qui sont en place et tout au long de l'année, on va voir déjà des petites choses qui vont évoluer, hein, notamment en termes de couverture des parents, de protection des conditions climatiques, c'était un sujet important et voilà, on a une solution qui est en train de se mettre en place. Et puis, encore une fois, des dossiers qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu plus de longue durée, mais qui ont déjà été rouverts assez rapidement d'ailleurs et qui concerneraient l'agrandissement de nos infrastructures de pratique. C'est une des difficultés, c'est déjà l'administratif qui s'est réglé. Après, on a une deuxième difficulté qui va être celle de la compétition entre clubs. On a un principe, nous, on se considère comme étant un point de passage. On a du mal à comprendre les clubs pour lesquels, lorsqu'on a des joueurs qui viennent en détection chez nous, qui peuvent considérer que nous sommes concurrents et que nous avons des joueurs qui viennent chez nous et qui devraient rester dans leur club. Encore une fois, on est des points de passage, et quand on a des solutions qui, je dirais, s'adaptent un peu plus à un potentiel de joueurs, ben il faut au contraire, je pense, être assez heureux, assez satisfait de pouvoir faire évoluer un joueur. Voilà, quand on a un joueur qui part pour mieux que chez nous, on en est heureux, et c'est notre souhait, c'est notre objectif. Je pense que c'est une difficulté de pouvoir faire comprendre aux autres clubs de la région qu'on n'est pas des concurrents, on est vraiment des partenaires, dans l'apprentissage du football pour certains jeunes joueurs. Alors évidemment, pas pour tous, loin de là, mais pour certains jeunes joueurs, oui, absolument.
Évidemment, au niveau financier, il y a également des difficultés auxquelles vous faites face.
Alors, je pense qu'à l'image de tout ce que le club, de tout ce que le football amateur peut vivre, la question financière est cruciale, elle est importante, encore plus par les temps qui courent. Et c'est compliqué pour un club amateur de réussir à générer des revenus suffisants pour payer tout ce qu'un club a le devoir et a l'envie de payer. Alors, indépendamment, je dirais, des charges qui peuvent être liées à ce que les institutions du football mettent en place et qui sont au final pas, qui sont relativement accessoires dans les dépenses. C'est toujours un budget, mais c'est relativement accessoire. On a besoin de payer des équipements pour nos joueurs parce que quand vous êtes à 2 entraînements, 3 entraînements, parfois 4 entraînements par semaine et que vous avez un maillot, un short qui vous sont offerts par le club, ça peut faire un petit peu court. Donc c'est vrai qu'on a des objectifs d'avoir des équipements pour nos joueurs, quelles que soient les sections. Ça représente un budget important. Heureusement qu'on a des partenariats forts là-dessus, mais voilà, malgré cela, c'est une vraie problématique, c'est un vrai sujet. Et puis l'autre problématique, c'est que on n'est pas dans une ère du temps où les subventions de mairie soient les plus je dirais les plus favorables, ou en tout cas elles soient pas à la croissance, hein, assez naturellement dans le monde financier dans lequel on vit, ce serait pas naturel, je dirais, d'avoir ce sens-là. On est plutôt non pas sur une diminution pour ce qui nous concerne personnellement, mais voilà, déjà un maintien, c'est quelque chose, c'est une ambition forte. Et donc on a besoin d'avoir des relais de recettes qui sont celles des partenaires et des sponsors. C'est un sujet qu'on a développé, qui n'existait pas jusqu'ici au niveau du club de l'ESBF. C'est un sujet que l'on a développé et évidemment, on a un atout que d'autres clubs aussi modestes que nous, mais que d'autres clubs n'ont pas, c'est qu'on a une visibilité qui est très importante, notamment du fait des performances de l'académie masculine, de ce que les féminines réussissent à faire également. Et voilà, quand on a des belles photos de nos joueurs qui sont sur le terrain avec en face l'équipe première du FC Barcelone, de la Juventus de Turin ou de Manchester United, et qui en plus ont un score favorable en leur sens, voilà, ça facilite un petit peu la visibilité, ça facilite le passage. Et donc on a, un peu comme peut l'être un annonceur, on a une visibilité qui nous permet d'avoir des sponsors. Maintenant, on est évidemment toujours en recherche de partenaires. Parce que voilà, c'est primordial aujourd'hui pour le foot amateur en général.
Et du coup, au niveau des partenaires, ça va, vous arrivez à vous en sortir, à trouver les...
Alors oui, maintenant, c'est un vrai investissement en temps personnel. Parce que déjà, le bénévolat en temps normal prend beaucoup sur son temps, sur le temps que l'on peut avoir. Et puis ensuite, aller rechercher des partenaires, même si beaucoup d'entreprises sont finalement très à l'écoute, ça nécessite un investissement en temps personnel qui est relativement important. Et c'est pas toujours évident, même si on a cette belle visibilité, cette belle carte de visite, de pouvoir aller voir tous les professionnels que l'on aimerait voir. Donc, on a évidemment des partenaires. On est loin d'être les plus malheureux sur ce sujet-là. Mais encore une fois, on est tout à fait à l'écoute d'autres partenaires qui souhaiteraient profiter de notre visibilité.
Merci à vous, Xavier Israël et Morgan Artaud, d'être venus dans nos studios pour nous parler de l'entente sportive Bois-Fleflin.
Merci à vous.
C'est la fin de ce journal des sports. Vous pourrez le réécouter demain mardi à 12h10. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal des sports. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.
Le journal des sports de BPM.